Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Bienvenue dans votre rendez-vous patrimonial hebdomadaire, chaque mercredi sur Radio Patrimoine. On vous accueille pour aborder de multiples sujets qui touchent à la gestion de votre patrimoine. Au sommaire cette semaine, on va vous donner quelques clés bien utiles pour investir dans le nos côtés, tout en le faisant rimer avec défiscalisation. Et puis on rédigera pour vous un mode d'emploi de la loi Industrie Verte, sans oublier pour finir un peu d'immobilier. Et oui, on ne se refait pas, on parlera petite surface. À Paris, c'est parti pour Cœur de patrimoine.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on accueille Sébastien Coinon. Bonjour Sébastien.
Bonjour Cédric.
Pour SoWeFund, on se retrouve régulièrement dans Cœur de patrimoine pour essayer de s'intéresser à ce monde du non-coté. Pourquoi investir déjà sur cette typologie, on va dire, de boîte?
C'est une bonne question. Déjà, il faut avoir envie. Ouais. Envie de soutenir l'économie réelle, d'investir dans des choses qu'on connaît moins, qu'on a moins l'habitude d'appréhender. Et puis, la base, c'est qu'il faut quand même rappeler, c'est comme c'est risqué, et on pourra y revenir, ce qui est mieux, c'est quand même d'être, peut-être comme vous, Cédric, propriétaire de sa résidence principale ou déjà investisseur, on va dire, dans l'immobilier.
On ne commence pas par
un peu le minimum.
Côté,
hein, avoir le minimum, une assurance vie, etc., pour soi, pour ses enfants. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, on peut aller sur le non-côté, effectivement.
Et ça rime forcément avec hyper start-up, avec des boîtes au tout début de leur vie, ou on a aussi dans le non-côté des boîtes qui sont déjà établies et on va y revenir, qui auront peut-être un profil moins risqué?
Le spectre est très large, c'est vrai. Il y a du très early, donc amorçage, on va dire, des entreprises qui ont entre 0 et 3 ans, d'autres qui vont être plus mature, évidemment, avec des clients, de l'attraction, qui vont année après année, même mois après mois, gagner 5, 10, 15, 20, 30% de chiffre d'affaires. Et puis, des bateaux parfois bien lancés, qui ont 5, 10 ans, et qui, honnêtement, ressemblent peut-être plus à des PME, très souvent, ou des ETI, quand elles sont avec quelques zéros de plus, plutôt qu'à la petite start-up du coin avec deux copains ou deux copines dans un garage, quoi.
Alors, on a bien compris qu'on est là aussi pour soutenir cette économie réelle. Et c'est quelque chose qui est dans le langage, on va dire, des pouvoirs publics, du gouvernement, un souhait vraiment de flécher comme ça l'épargne. Souvent, l'État, lorsqu'il souhaite que le privé, comme on dit, subventionne certaines activités, il offre une petite carotte fiscale. Alors aujourd'hui, on sait que c'est plus tout à fait dans l'air du temps. Mais quel est le contexte sur ce non-côté? Est-ce que quand on investit dans du non-côté, ça veut forcément dire qu'on a, entre guillemets, un avantage fiscal?
Il y a très souvent un avantage. On va y revenir soit à l'entrée, soit à la sortie. Alors, c'est vrai que c'est moins à la mode. Hein. C'est clairement moins à la mode pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer. Problème de déficit, les caisses sont vides, on cherche de l'argent ici ou là. Et c'est vrai que la French Tech, elle aussi, va devoir prendre sa part faire son effort. On entend des dents qui grincent ici ou là, des députés qui sont plutôt proches de cette industrie et qui monte au créneau en disant « je vais déposer tel ou tel amendement ». Pour l'instant, alors je touche du bois, il y en a pas mal chez vous, j'en profite Cédric. Côté investisseur, on ne semble pas toucher. C'est peut-être du coup l'occasion de soutenir ces entreprises parce que pour le coup, eux, les entrepreneurs, les startups, les PME qu'on évoquait, PME du digital, du numérique, a priori, ouais, vont être touchés d'une manière ou d'une autre, avec moins d'allègements, voire carrément plus d'allègements, parfois sur des charges patronales, sur des aides, etc. Donc ça va être, disons-le, hein, dès 2025, plus compliqué pour elle. Mais en revanche, c'est vrai que sur le volet investissement, à ce stade, ce n'est pas du tout sur la table, on pourra toujours en bénéficier. Donc, on peut le détailler si vous voulez.
Alors justement, il y a des noms. Enfin, je veux dire, quand on est en immobilier, on parlait du Pinel, on a parlé du Besson. Enfin bref, en immo, il y a souvent un logo. C'est le cas aussi. Enfin, il y a un nom, une tête de liste, un attrape.
Alors, à la sortie, je dirais, il y a le PEA-PME. Vous en avez sûrement entendu parler. Pour le coup, ce n'est pas un nom propre, hein, ni une injure, mais il est hyper pratique parce qu'on peut mettre effectivement, et ça, on ne le sait pas toujours, du non-côté, donc des entreprises qui sont pas listés sur Euronext ou sur Wall Street. Et c'est quand même vachement intéressant puisque du coup, je ne paierai pas, je peux mettre jusqu'à 150 000 euros et je ne paierai pas de plus-value à la sortie. Voilà, je ne paierai pas de plus-value. En revanche, je paierai toujours mes prélèvements sociaux. Je ne peux pas y couper. En revanche, dès l'entrée, si vous cherchez des noms propres, ça risque de vous parler comme à moi. Il y a le dispositif IR-PME, dit Madelin, à la fin de l'année 90, qui s'est transformé aussi, enfin qui a été étendu après à l'ISF, quand ça existait. Ça a été supprimé depuis, comme vous le savez. Donc l'ISF PME, Et aujourd'hui, on a donc, et ça vous permet, on va dire, de réduire votre IR de 18%, toujours dans la limite des 10 000 euros, la fameuse niche fiscale classique. Et aujourd'hui, enfin aujourd'hui, depuis le 1er janvier 24, on a, et on a jusqu'au 31 décembre, ça pour le coup, ça ne changera pas, le dispositif IR, toujours donc pour impôt sur le revenu, jeune entreprise innovante, donc JEI, où là, on va pouvoir, enfin l'investisseur particulier peut réduire son impôt sur le revenu de 30 à 50% hors niche des 10 000 jusqu'en 2028. En tout cas, bon, jusqu'à la fin de l'année, ça c'est sûr, mais le dispositif, il est fait pour vivre
on verra
jusqu'en,
si.
Voilà, jusqu'en 2028. Et là, c'est vraiment game changer. En mauvais français, puisqu'on va pouvoir réduire son impôt sur le revenu de 50 000 euros si on investit entre 100 et 150 000 en fonction de la cible, j'ai envie de dire, de la start-up, si elle est plus ou moins innovante.
Alors justement, peut-être un petit avertissement, parce qu'il faut toujours aller au bout de l'idée d'investissement qu'on propose, Sébastien, c'est que quand il y a un avantage fiscal... souvent, ça veut dire qu'on prend le risque à la place de l'État, entre guillemets. Ça veut dire qu'il y a un risque, hein, il faut le savoir, et que, quelque part, cet avantage fiscal, ça doit être peut-être la cerise sur le gâteau qui ne doit pas empêcher de bien sélectionner, justement, les boîtes dans lesquelles on intervient. Quels sont les risques spécifiques, j'ai envie de dire, s'il y en a, qui sont liés à cet investissement dans le non-coté ?
J'adore votre expression, Cédric, je bois vos paroles. C'est une cerise sur le gâteau. C'est pas une carotte, comme on dit souvent, la carotte fiscale, parce que ça va attirer des personnes pour de mauvaises raisons. Cerise sur le gâteau, c'est le petit plus. Et c'est vrai que nous, chez SoWeFun, et j'espère chez nos concurrents, il y a une cinquantaine d'agréments de plateformes de financement participatif en France qu'ils ont la même attitude. C'est de se dire, nous, on va sélectionner pour nos investisseurs. Ils sont 135 000 aujourd'hui inscrits, une partie qui est active, hein, qui va investir chaque année. Mmh. Eh bien, oui, on va leur proposer les meilleurs dossiers, 25-30 dossiers par an sur plusieurs milliers qu'on va analyser. Donc, on est quand même très sélectif. Et c'est notre... voilà, c'est là-dessus que nous, on fait notre marque, notre différenciation en disant, bah, on le fait. Déjà, effectivement, on fait cette due diligence. Donc, on va soulever le capot pour voir où est-ce qu'on en est, si c'est un
investissement intéressant. Est-ce que tout le monde n'est pas non plus apte à aller décortiquer un business model, un bilan, de comprendre les ressorts de telle et telle entreprise qui démarre, hein.
Et nous, on fait un double tampon, parce qu'en plus, on demande souvent à nos entrepreneurs, à nos clients qui sont des startups, d'être elles-mêmes déjà financées par des fonds, des fonds VC, des family office, la BPI, etc. Donc, on va dire double sécurité.
Il y en a d'autres qui ont déjà regardé.
Exactement. Et du coup, bah, effectivement, une fois qu'on a fait tout ça, le risque, il faut le rappeler. Un, j'investis que ce que je peux perdre. Deux, effectivement, il y a ce risque en perte en capital partiel ou total. Et le troisième, qui n'est pas le moins important aussi, là, c'est tout le private equity, hein, tout le non-coté, c'est ce risque d'illiquidité où, contrairement à une action L'Oréal, BNP, Total, que sais-je, ce n'est pas moi qui décide de vendre à la minute M, à l'instant T. Il faut une occasion de liquidité. Très souvent, l'horizon, il est plutôt à 5, 6, 7 ans qu'à quelques mois.
Est-ce qu'on peut illustrer un peu le propos, peut-être en donnant quelques exemples, quelques noms qui pourraient peut-être résonner d'entreprises qui ont plutôt réussi leur financement sur ces mois qui viennent de s'écouler ?
Chez SoWeFun, on a eu Campsider cette année, donc il y a une marketplace qui vous permet d'acheter et de vendre du matériel sportif, qui a fait une très belle levée communautaire. On a eu Pixmania, c'est peut-être un nom qui vous parle.
Eh ouais.
Comeback, donc notamment de Jean-Emile Rosenblum, qui non seulement vend des téléphones, du matériel informatique, mais aussi le reconditionne près de Paris à Levallois. Donc c'est 150-200 000 téléphones là, qui vont être encore cette année reconditionnés. Donc on leur donne une deuxième, voire une troisième vie. Et puis, Bon Petit Placement, qui est une fintech qui propose à ses clients de chaque mois mettre 100, 200, 300, 500 euros de côté et de l'investir sur un PER, sur une assurance vie. Et là, ils ont crevé tous les plafonds en levant plus de 4 millions d'euros en seulement 3 semaines, ce qui était quand même une belle prouesse.
Mon petit placement qu'on connaît bien sur Radio Patrimoine. Ils sont déjà passés dans Cœur de Patrimoine et on les reverra bien évidemment. Cet avantage fiscal, pour en terminer avec, puisqu'on a parlé du risque, on a parlé un petit peu de ses réussites, c'est juste, comme on le disait, la cerise, il est très important. Il contribue vraiment au rendement, à la réussite quand même d'une opération d'épargne dans ce monde du non-coté.
Effectivement, ça va permettre de diversifier, donc on l'a dit, ses actifs. C'est l'occasion aussi de profiter d'opportunités parce qu'on a énuméré les risques de perte partielle ou totale, d'illiquidité, etc. Mais face à ça, on peut avoir de très beaux multiples qui ne sont pas proposés dans d'autres classes d'actifs. Et puis, évidemment, toujours l'aventure humaine de se dire j'ai accompagné telle entreprise, j'ai eu un coup de cœur, je connais l'entrepreneur ou je l'ai écouté sur une vidéo, sur un webinar. Et voilà, j'ai envie d'y croire. Je trouve que ce qu'elle dit, ce qu'il dit, je suis complètement en phase. Et de me retrouver pour quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros embarqué et aussi comme
partenaire, entre guillemets.
Partenaire, ambassadeur, consommationnaire aussi. Le terme est parfois utilisé. On voit que ça fait vibrer beaucoup de gens. Et c'est qu'un début. Alors, c'est une industrie récente qui a une petite dizaine d'années. Mais si en plus l'État peut non pas flécher, mais dire voilà, vous prenez du risque et on va soulager un petit peu votre impôt sur le revenu. Et là, c'est vrai que c'est le moment, puisque jusqu'au 31 décembre, si on le fait au 31 décembre de cette année, ça sera pris en compte pour les impôts qu'on paiera au printemps 2025.
Eh bien voilà un petit peu de pistes, de clés de réflexion pour alimenter votre patrimoine dans le non-coté. Merci beaucoup Sébastien d'être passé.
Merci beaucoup,
Sébastien Coinon et So We Found dans Cœur de patrimoine.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on poursuit en accueillant Sébastien Roca. Bonjour Sébastien.
Bonjour Cédric, bonjour
merci
à tous.
Merci d'être au rendez-vous de Cœur de Patrimoine, directeur général de Cedrus Partners. Et on va essayer de s'intéresser à un vocable qu'on entend un petit peu monter dans la gestion de patrimoine. C'est la loi industrie verte. Et grâce à vous, on va proposer à nos auditeurs, qu'ils soient professionnels ou épargnants un peu avertis, une forme de mode d'emploi. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous réexpliquer peut-être pour certains, ce que c'est que cette loi industrie verte et quels sont ses principaux objectifs, on va dire.
Avec plaisir. Donc déjà, cette loi industrie verte, elle va rentrer en vigueur dans très peu de temps. Ça sera le 24 octobre, donc dans 10 jours. Et finalement, cette loi industrie verte, c'est une certaine continuité par rapport à des précédentes lois. Tout d'abord, c'était en 2015, la loi Macron, qui a autorisé l'intégration de supports non cotés dans l'assurance vie française. Puis en 2019, la loi Pacte, où ça a été étendu au PER. Et maintenant, l'objectif de cette loi industrie verte, c'est justement d'intégrer de manière obligatoire des placements non cotés à la fois dans les gestions pilotées des PER et de l'assurance vie française.
Et alors, à part une continuation, en quoi est-ce qu'elle se distingue, on va dire, de ces autres initiatives écologiques qui avaient été prises par le gouvernement ces dernières années ?
Elle se distingue où il y a vraiment, on va dire, des ambitions qui sont très fortes. Bercy estime, d'ici 2030, rediriger grâce à cette industrie verte jusqu'à 67 milliards d'euros vers l'économie réelle française. Donc ça, c'est un premier point qui est assez marquant. Et pour rediriger ces capitaux, ce qu'ils ont prévu, c'est qu'il y ait des minimums d'investissement dans la gestion pilotée. On parle pour, vous savez, en gestion de patrimoine, il y a plusieurs profils d'investisseurs. Il y a les prudents, il y a les équilibrés, puis il y a les dynamiques. Pour les équilibrés, on serait à peu près autour de 3-4% de non-cotés de manière obligatoire dans les contrats. Et pour des profils dynamiques, ça irait jusqu'à 8%. Donc voilà, quand on voit les flux très conséquents qu'il y a dans ces marchés, pour rappel, l'assurance vie l'année dernière, en 2023, c'était 145 milliards d'euros de collecte brute. Côté PER en collecte brute, c'était autour de 15 milliards d'euros. Donc voilà, c'est quand même un marché qui est assez conséquent. Et justement, le fait d'obliger les contrats à avoir du non-coté, ça devrait rediriger des montants assez significatifs dans les prochaines années.
J'imagine, on en parlait il y a quelques minutes aussi avec Sébastien Coinon chez So We Found, mais on imagine qu'il y a des incitations fiscales pour ceux qui choisissent d'investir d'abord évidemment dans ce non-coté et puis surtout dans des actifs qui sont alignés avec la transition écologique.
Finalement, l'incitation fiscale, ça va être l'enveloppe. Donc, l'enveloppe assurance vie française, rien de vrai, voilà. Et puis, l'enveloppe PER aussi, pour préparer sa retraite, plutôt faire un déversement programmé et être défiscalisé sur son impôt sur le revenu actuellement pour ensuite avoir une rente plus tard. Mais il n'y aura pas de complément par rapport à ça. C'est vraiment les deux enveloppes qui sont visées.
Alors, deux enveloppes qui existent déjà et on imagine qu'il y a peut-être aujourd'hui à l'écoute de Cœur de Patrimoine des investisseurs qui sont déjà partie prenante de PER, de contrats d'assurance vie, etc. Quel impact cette loi aura pour ce type d'épargnants qui sont déjà dans des produits qu'on va dire classiques ?
L'impact, c'est de quel est l'intérêt d'avoir du private equity aujourd'hui dans son portefeuille. Pour comparer un petit peu, voilà, le private equity ou le non-coté au global, c'est vrai que c'était pas très disponible pour les investisseurs particuliers il y a quelques années. J'ai dit que la loi industrie verte, c'était une continuité de précédentes lois. En 2019, quand il y a eu la loi Pacte, il y a eu beaucoup de volonté d'y aller, mais finalement, le marché n'était pas prêt. Le marché n'était pas prêt parce qu'il n'y avait pas encore de support qui était éligible. Et en plus, une fois qu'il y a des supports qui sont éligibles, finalement, les réseaux de distribution, donc les réseaux bancaires, les CGP, ont besoin de connaître bien la classe active pour être capable de bien l'expliquer. Et je pense qu'aujourd'hui, le marché est prêt. Alors, il y a beaucoup de supports d'investissement qui sont disponibles en assurance vie et en PER. Et en plus, les réseaux de distribution ont beaucoup progressé, connaissent la classe d'actifs. Et pour donner quelques chiffres, on va dire que le non-coté, c'était utilisé par les grands investisseurs type fonds de pension ou type les plus grandes fortunes françaises ou les plus grandes fortunes européennes. Les plus grandes fortunes européennes ont en moyenne 22% de capital investissement dans leur portefeuille financier, alors qu'un particulier français va avoir moins de 0,5%. Donc, l'intérêt d'avoir du private equity dans son portefeuille pour l'épargnant, c'est justement d'avoir une rentabilité qui va être boostée. Parce que si on regarde sur les 10 dernières années, le private equity a surperformé les marchés cotés de plus de 5% par an. Ensuite, c'est avoir quelque chose de plus de stabilité dans son portefeuille financier parce que le non-coté va avoir des fréquences de valorisation qui seront plus éloignées. Donc, en fait, on va réduire la volatilité d'un portefeuille grâce à ça. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle chez nous la société de demain. Donc, c'est pour ça les 3S, surperformance, stabilité, société de demain. Parce qu'en plus, ça permet de financer l'économie réelle. Votre précédent invité en a parlé tout à l'heure. Et voilà, d'avoir quelque chose d'assez concret.
Juste, je reviens un petit peu sur ceux qui détiennent peut-être déjà de l'épargne. On sait que souvent, quand il y a un nouveau produit ou un déménagement ou une poursuite d'efforts comme ça voulu par les pouvoirs publics, il y a une espèce de fléchage ou d'accompagnement qui vise à encourager, on va dire, une réallocation de l'épargne vers ces nouveaux projets, ces nouvelles mesures, etc., qu'elles soient écologiques ou pas. Enfin, est-ce que ça existera aussi cette fois-ci? Est-ce que cette loi industrie verte, finalement, elle va accompagner activement les épargnants?
Elle va accompagner activement parce que, justement, quand ils auront choisi la gestion pilotée, en assurance vie française ou en PER, il y aura mécaniquement un minimum de non-coté. Donc, ça veut dire que leur portefeuille financier, qui préalablement n'avait pratiquement pas de non-coté, vont avoir du non-coté à l'intérieur et donc vont avoir les vertus du non-coté, comme je viens de l'expliquer juste avant. Donc, c'est vrai que leur profil de leur portefeuille de gestion pilotée va évoluer dans ce sens, mais je pense que c'est une bonne chose parce qu'une allocation d'actifs doit avoir du non-coté au même titre que des obligations, au même titre que de l'immobilier, au même titre que des actions. Voilà. Il faut avoir une allocation qui est diversifiée et ça manquait aujourd'hui. Et je pense que l'État, avec cette loi, va justement obliger à avoir un minimum de non-coté, ce qui est plutôt cohérent pour une allocation d'actifs.
Sébastien Roca, je vous apprends rien en vous disant que les épargnants, ils sont aussi souvent soucieux de la rentabilité de leurs placements. Est-ce qu'on arrive à savoir comment ces investissements verts, finalement, se comparent face aux investissements plus traditionnels? Je parle de performance et, si possible, de performance un peu à long terme. Hein.
Bien sûr. Alors déjà, si on parle seulement du non-coté versus les marchés cotés, sur les 10 dernières années, le marché du private equity européen a surperformé le CAC 40 de 7% par an. D'accord. Donc sur 10 ans, c'est soit 70% de performance supplémentaire. Donc après, il ne faut pas regarder que les performances passées, mais on voit que le fait que le non-coté, c'est un placement qui est plus illiquide, qui est moins de valorisation, ça évite les bruits de marché. Et donc déjà, avec être capable de porter ce risque d'illiquidité, ça permet de surperformer les marchés cotés. Et ensuite, si on regarde juste les placements verts, les placements verts, il y a certaines grandes tendances comme les infrastructures, comme la décarbonation des industries. Il y a des énormes besoins sur ça et nous, on a une forte conviction sur le fait que ça va aussi avoir beaucoup, beaucoup de visibilité sur les rendements futurs. Donc, cibler des placements verts, c'est intéressant aussi sur le long terme. Et on va dire que dans la gestion d'une entreprise, faire attention à ça, c'est aussi réduire le risque de controverse. Et quand on voit même dans les marchés cotés, quand il y a une controverse, ça détruit beaucoup de valeur. Donc faire attention, on va dire, aux placements socialement responsables au sens large, maintenant c'est une obligation, même en termes d'avoir quelque chose, un portefeuille qui est bien positionné en termes de performance.
Et il y a des risques, on le sait sur le non-coté, on les a évoqués déjà dans Cœur de Patrimoine, il y a des risques inhérents aussi aux placements verts ou pas?
On va dire que les placements verts sont dans l'univers du non-coté.
Il n'y a pas de risque inhérent au green, entre guillemets.
Il peut y avoir, on va dire, le principal risque du rendement de côté, c'est les liquidités. Donc, c'est vrai, il faut avoir quand même du temps devant soi. Ce n'est pas un placement pour 1 ou 2 ans, c'est un placement qui a un horizon recommandé au moins de 7-8 ans. Donc, ça, c'est le premier risque qu'il faut bien avoir en tête. Ce n'est pas fait pour tout le monde, mais si vous avez du temps devant vous, c'est adapté dans une allocation d'actifs. Et après, il faut bien vérifier aussi l'analyse des fonds qui vont rentrer au capital des sociétés. Parce que c'est pareil, vous devenez actionnaire d'une entreprise, donc il faut vérifier que le management en place
Bien sûr.
est bon, les contrats qu'ils ont avec leurs clients sont de qualité, qu'il n'y ait pas de risque juridique particulier, mais après ça c'est une analyse d'entreprise classique.
Chez Cedrus et Partners, comment est-ce que vous accompagnez finalement vos clients dans cette transition vers des investissements plus verts? Quels conseils vous leur prodiguez?
Ben nous, chez Cedrus, pour rappeler un petit peu ce qu'on fait, on conseille des grandes fortunes européennes. Donc, vous connaissez sûrement le classement Challenge. Parmi le classement Challenge des 500 plus grandes fortunes, dans le top 100, 9 sont clients Cedrus. Donc, on connaît très bien ce type de clientèle qui a notamment beaucoup de noms cotés en portefeuille. Et là où on les accompagne, c'est vraiment construire des portefeuilles noms cotés diversifiés. Quand on parle de noms cotés, on ne fait pas que du private equity chez Cedrus. On regarde aussi la dette privée, donc des prêts à des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. On regarde aussi les infrastructures, on regarde aussi ce qu'on appelle l'immobilier value-add. Immobilier value-add, ça veut dire acheter un immeuble qui est très bien placé, être capable de le restructurer, le mettre aux dernières normes, le relouer et le revendre à un investisseur plus classique type SCPI. Et en fait, ce qu'on fait pour ces clients, c'est qu'on va aller piocher les meilleures classes d'actifs par rapport au contexte de marché et on va construire un portefeuille qui va être diversifié en noms cotés. Et ça, c'est intéressant parce que déjà, on va réduire le risque grâce à la diversification et en plus, en intégrant des stratégies qui sont adaptées au contexte de marché, ça permet de booster les performances et de rendre l'argent plus rapidement. Parce qu'en non coté, c'est un investissement qui est long
Eh oui.
terme. L'enjeu, c'est de faire une bonne performance à la fin. Mais si en plus on peut rendre l'argent un peu plus rapidement, c'est intéressant pour l'épargnant final.
Vous avez rappelé en commençant cet entretien, Sébastien Roca, que cette loi industrie verte, finalement, elle s'inscrivait dans une longue série de volontés politiques. Est-ce que vous pensez qu'elle aura un effet structurant et peut-être durable sur ce marché de l'épargne?
Je pense qu'il va y avoir un impact assez fort, justement parce que le marché est prêt. On l'aurait fait il y a quelques années, ça aurait été plus compliqué, ça aurait été des annonces, mais finalement, en termes de flux redirigés vers l'économie réelle, ça aurait été assez faible. Aujourd'hui, tous les assureurs de la place sont en train de monter leur offre d'investissement en non coté pour la loi industrie verte. Les réseaux de distribution, les réseaux bancaires, les plateformes, les CGP sont prêts. Je pense que c'est un bon timing et ça va engendrer des flux qui vont être importants. Alors, on ne sait jamais, il parle de 67 milliards d'euros d'ici 2030. C'est difficile à dire si on sera à ce niveau-là. Mais vu que le marché est prêt, je pense qu'il y aura des niveaux de collecte qui seront assez importants.
Merci beaucoup Sébastien. Sébastien Roca et Cedrus et Partners qui nous initiaient au bon sens du terme à cette loi industrie verte. Merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes pour répondre à l'invitation de Cœur de Patrimoine.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on termine avec une petite note immobilière. Et oui, vous êtes tout de même nombreuses et nombreux à aimer cet investissement immobilier. Et on accueille pour en parler Thierry Vignal. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Merci d'être là, expert de ce monde immobilier. Et donc, je résiste pas. On va s'intéresser aux petites surfaces parisiennes. Hein, ça, c'est votre dada. Mais d'abord, je résiste pas au plaisir de vous demander comment vous voyez ce marché immo. Parce qu'il a beaucoup souffert. On en a beaucoup parlé. On l'a dit complètement grippé, etc. Puis il y en a plein qui commencent à nous dire bah, ça va mieux. Vous le pensez aussi? Ça va mieux?
Ah bah moi, j'ai vécu la grande époque 2021-2022 où les taux étaient à zéro et on vendait des centaines d'apparts tous les mois. Non, ça n'a rien à voir. Mais bon, moi, mon ancienne boîte, Mastéos, fait 1/10 de ce qu'elle faisait. Les concurrents font pareil, 1/10, 1/4.
Oui, donc ça a morflé quand même.
Non, on continue à traverser du désert. En fait, par rapport à il y a 3 mois, il y a peut-être un sursaut fébrile, mais c'est tout. Non, non, ça reste très asséché comme marché, surtout avec les dernières nouvelles.
Alors, vous avez, je le disais, un prisme particulier, c'est celui des petites surfaces à Paris. D'abord, état des lieux de ce marché, justement, de ces petites surfaces à Paris.
C'est un marché qui répond à ses propres règles. Et puis, il y a petite surface et petite surface.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle petite surface ou petite surface?
Alors, il y a une définition légale qui date de la taxe apparue de ce que c'est qu'un micro-logement. Un micro-logement, légalement, c'est ce qui fait moins de 14 mètres carrés. Et c'est le marché auquel je m'intéresse en ce moment, ce qui fait moins de 14. Donc, vraiment le tout petit. Le marché du moins de 20 mètres carrés, c'est encore un autre marché qui est plus proche du marché IMO dans son ensemble. Mais plus on va sur les petites, petites tailles, plus on s'ouvre à un marché qui a ses propres règles et qui est complètement à part.
Bah, 14 mètres carrés, ça fait quand même pas grand.
C'est pas grand du tout. Pourtant, c'est quasiment 10% du marché parisien qui a une architecture qui se prête, qui est assez unique.
C'est quoi,
sont
les chambres de bonne, ce sont...
Alors, en plus, dans ce marché du moins de 14, on a la moitié qui sont des chambres de bonne. Donc, on a le cliché dernier étage sans ascenseur, toilette palier. Et il y en a un paquet à Paris. Il y en a un peu plus de 100 000. Il y en a 115 000 d'après l'INSEE. Donc, 85 000 ne sont pas habités. Hein. Ouais. Donc, ça fait 75-80% des chambres de bonne qui ne sont pas habitées. Et on a une autre partie du moins de 14 mètres carrés qui sont des studios normaux avec des WC qui sont au premier et deuxième étage. Ça, on connaît un peu moins parce que ça sort du cliché. Et c'est aussi un marché qui est sous-exploité, voire à l'abandon, dans un état assez insalubre, parce qu'effectivement, on ne sait pas quoi en faire. C'est trop petit. Pourtant, on sait faire des cabines de bateau, des wagons-lits, on sait faire plein de choses, mais on n'y arrive pas dans le résidentiel.
Il faut s'associer avec Beneteau.
C'est ça. Et donc, mais pourtant, il y a des choses à faire.
Qu'est-ce qui influence, du coup, ce marché, s'il est quasi à l'abandon et autres ? Il y a des tendances, il y a des...
En fait, ça s'observe mondialement. Dès qu'une ville... devient pénurique. Par exemple, Tokyo ou New York, dès que
on a tous vu les espèces
de capsules,
de cercueils, j'allais dire, dans lesquels on propose de dormir à Tokyo.
C'est un phénomène qui arrive à chaque fois qu'une ville devient trop chère et manque de logements pour ses citoyens. Les gens commencent à s'intéresser aux surfaces.
À ce qui reste, finalement.
Et ben quand on ne peut pas construire ni en horizontal ni en vertical, qu'est-ce qu'on fait ? On divise, on apprend à travailler des surfaces plus petites et c'est dans ces capitales-là qu'émerge la culture du micro-logement qu'on a vu à Tokyo, qu'on voit avec les pods new-yorkais et qu'on commence à voir à Paris. Paris, la crise du logement est telle qu'on est forcé, c'est presque une obligation morale, de regarder tout ce pan de l'immobilier parisien qui est à l'abandon. On parle de millions de mètres carrés qui sont inexploités et pourtant habitables.
Mais donc, ça veut dire que vous vous dites, je vais prendre une chambre de bonne telle qu'elle est, parce qu'il y a le mythe aussi, puisqu'on parlait de mythe tout à l'heure, j'achète une, deux, trois, quatre ou plus chambres de bonne, et là, je refais un super appartement sous les toits, avec vue imprenable, etc. Non, là, c'est traité vraiment... La petite surface, pas être obligé d'aller convaincre les 8 ou 10 copropriétaires de vous vendre les 8 ou 10 chambres de bonne. Hein. On prend une micro-surface et l'idée, c'est qu'on la traite.
Exactement. C'est vrai que les générations précédentes, c'est quand même un thème qui revient de manière assez cyclique. Mais les générations précédentes avaient cette grande obsession de réunir des chambres de bonne. Bon, encore une fois, il n'y a pas que les chambres de bonne. Il y a aussi. Il faut qu'on apprenne à exploiter ces espaces à l'unité. Et en fait, pour avoir fréquenté des architectes spécialisés, je suis allé voir ceux qui font des cabines de yacht, ceux qui font des camping-cars de luxe, ceux qui font des wagons-lits. Et ces gens-là sont capables, avec ces surfaces-là, de créer des environnements très luxueux. On a des hôtels 4 étoiles à Paris qui ont des chambres de 12 mètres carrés, que je ne citerai pas ici, mais j'en connais au moins 3. On sait faire du luxe, voire de l'ultra-luxe, dans du 9, 10, 11, 12, 13, 14 mètres carrés. Et c'est ça que j'invite les investisseurs à regarder, parce qu'en plus, c'est assez décoté à l'achat.
Et du coup, ça va intéresser, selon vous, ou en tout cas, vous visez quel type d'investisseur ? Peut-être, par exemple, des débutants qui n'ont pas forcément un gros patrimoine et qui ont envie de mettre le doigt dans cette aventure immobilière
Alors, je pense que ça se prête pas mal, parce que l'avantage, c'est que ce sont des budgets qui sont abordables, qui ne sont pas stressants, qui sont à la portée de pas mal de gens. En gros, toute personne avec un CDI est normalement capable de lever 100 000 euros pour acheter un micro-logement, parce que c'est le prix d'entrée. Et je pense que notamment les jeunes actifs qui ont du mal à acheter leur résidence principale devraient exploiter leur capacité d'emprunt comme ça. Et il y a des jeunes qui, dès 23, 24, 25 ans, devraient commencer à se construire un patrimoine en achetant ces micro-logements qu'ils peuvent louer à des gens de leur âge. On ne parle pas d'exploitation, hein, c'est juste en pénurie du logement. Louer un 14 mètres carrés à un étudiant, ça paraît assez logique, c'est rentable. Voilà. Il faut le traiter au millimètre.
Pour autant, on reviendra peut-être sur les travaux et la façon de les traiter, etc. Mais pour autant, on sait que les petites surfaces, dans le monde immobilier, souvent, elles ont moins bonne presse parce qu'on dit, finalement, proportionnellement, il y a souvent plus de charges, il y a le turnover quand même assez fort des locataires, etc. Est-ce que tout ça, vous avez le sentiment que ça ne peut pas un petit peu nuire à ce micro-logement, ou est-ce que vous pensez que Au contraire, il est peut-être exempt de ce défaut qu'on trouve souvent au studio.
Alors, il a mauvaise presse parce que la plupart des micro-logements à Paris sont insalubres.
D'accord.
Et donc, on a l'impression que dès qu'on touche ce secteur, dès qu'on en parle, on est immédiatement catalogué marchand de sommeil parce qu'on pense qu'ils resteront dans cet état. Moi, ce que je prône, c'est une réhabilitation pour les transformer en chambres d'hôtel 4 étoiles et leur redonner des lettres de noblesse. Après, en termes de charges, c'est pas le sujet, c'est plutôt le sujet inverse puisque la taxe foncière qui est assez basse à Paris, elle est quand même corrélée à la surface des appartements. Donc, qui dit petite surface dit aussi petite taxe foncière. Idem pour les charges de copro qui sont corrélées au tantième. Donc, quand on a 12 mètres carrés, on paye moins de charges. Donc, non, le sujet, il n'est pas tant là. Il y en a un autre, c'est que la valeur du dixième mètre carré est beaucoup plus élevée que du 101e. Le dixième mètre carré vaut plus cher que le 101e. Et donc, le prix au mètre carré des micro-logements, c'est pas celui qu'on voit sur Meilleurs Agents. Il est en général 20% plus élevé. Et donc, les gens qui s'aventurent dans ce marché-là ont toujours l'impression d'acheter trop cher au mètre carré. Mais il y a un coût incompressible, en fait, sur ces unités d'habitation. C'est un peu des atomes immobiliers. On ne peut pas faire en dessous de 9-10 mètres carrés. C'est une unité d'habitation qui a un coût incompressible. Et ce coût incompressible, où chaque mètre carré a beaucoup plus de valeur que sur des apparts normaux, fait qu'on paye plus cher au mètre carré, 20% en moyenne. Idem pour les travaux.
Vous nous avez dit petite surface parisienne. On sait qu'à Paris, il y a quand même une réglementation qui encadre les loyers. Est-ce que ça ne peut pas nuire un petit peu au développement de ce type d'investissement ?
Si, et c'est triste. Il y a même une réglementation qui encadre les surfaces. On le rappelle, il faut que ça fasse plus de 9 mètres carrés et également plus de 20 mètres cubes, les deux. Oui. Sinon, c'est pas louable. Et d'ailleurs, ça part d'une très bonne intention, ce genre de loi, d'éviter les marchands de sommeil et les lots insalubres. Néanmoins, chaque mètre carré libère des dizaines de milliers de logements. Donc, faisons attention à, si jamais ça passe de 9 mètres carrés à 10 mètres carrés, on va encore priver les étudiants de dizaines de milliers de logements. Donc, plutôt que limiter les surfaces, essayons d'apprendre à mieux exploiter ces. Voilà, petite parenthèse terminée. Sur les loyers, on a un vrai sujet, qui est le même que pour les DPE, qui était extrêmement défavorable dans la formule de calcul aux petites surfaces.
Mais c'est ça, parce qu'il y a l'encadrement des loyers, et puis il y a tout ce qui est réglementation thermique, environnementale.
Oui, alors il n'y a rien pour aider ces petits logements. L'encadrement des loyers, factuellement, aucun micro-logement parisien ne respecte l'encadrement. Vous allez sur Se Loger Le Bon Coin, vous n'aurez jamais un 9 mètres carrés plafonné de 9 x 3, donc ça devrait être à 270 euros par mois. Vous ne trouverez pas un logement à 270 euros à Paris. Donc déjà, c'est un fait, 0% respecte l'encadrement. Maintenant, ce n'est pas une raison pour bafouer la loi. Il y a des alternatives. On peut louer à des gens dont ça n'est pas la résidence principale, et c'est ce que je prône. Je pense que ce ne sont pas des logements qui sont faits pour y rester des années avec une famille de 4 enfants. C'est des enfants qui sont pour les gens en mobilité, qui restent 1 mois, 2 mois, 3 mois, des étudiants en stage, des gens qui déménagent, des gens qui divorcent, des gens qui cherchent une location long terme.
Mais c'est un point d'appui plus que...
C'est un point d'appui, et donc il faut le louer en bail mobilité ou en bail civil, et ces deux baux ont le mérite de ne pas être plafonnés en dessous de 8 mois de location.
Dans la presse ces jours-ci, on lit pas mal de comparaisons entre les arrondissements, le prix au mètre carré, le ceci, le cela. Il y a des arrondissements plus fournisseurs, on va dire, de petites surfaces, des arrondissements qui, au contraire, ne pourvoient pas à ce marché que vous appelez de vos voeux.
Oui, c'est lié à l'histoire architecturale de Paris. Les immeubles haussmanniens avec le plus de micro-logements sont dans l'ouest parisien. On a quasiment un tiers des micro-logements qui sont concentrés dans le 16e arrondissement, qui est typiquement l'arrondissement des Chambres de Bonne. Donc 16e, 17e, tout ce qui est à l'ouest de Paris, on a l'essentiel des micro-logements. On en a très peu dans les arrondissements qui vont de 1 à 7. Et là où on a le plus de demandes et des prix absolument absurdes et stratosphériques, c'est dans le 6e et le 7e arrondissement. Et je pourrais rajouter le 5e aussi.
Pensez-vous.
Voilà.
Quel conseil, tiens, pour finir, Thierry, vous donneriez à un investisseur qui aurait envie de se lancer dans l'achat d'une petite surface à Paris ? Est-ce que vous qui humez ce marché, vous vous dites, vous avez déjà identifié quelques erreurs à ne pas commettre ?
Alors, c'est un marché qui répond à un critère de plomberie. La plomberie va driver tout ce marché. Donc,
c'est-à-dire, faut pas qu'il y ait une colonne qui...
Tout est lié aux toilettes. Parce qu'en fait, c'est souvent des logements qui sont sans toilettes. Et en fait, on a trois catégories dont les prix varient à chaque fois de 20%. Donc, vous prenez le même logement, même surface, à la même adresse. S'il n'a pas de toilette, il va coûter 80. Donc, toilette sur le palier. 80 000 en moyenne dans le 16e. Voilà. S'il a des toilettes sanibroyeurs, il va coûter non pas 80 mais 100 000 pour la même surface. Maintenant, s'il a des vrais WC rattachés à une vraie évacuation, il va coûter 120 000. Donc, faut pas se tromper sur les prix en se disant qu'on fait une bonne affaire.
Où sont les...
Tout est lié aux toilettes. Et le grand jeu va être de essayer de se rattacher avec l'accord de la CoPro ou de manière sauvage à une évacuation existante en rachetant ce qui sépare des toilettes paliers. Enfin, tout le jeu, c'est de trouver ce fameux tuyau d'évacuation qui est le Graal et qui peut faire monter le prix d'un micro-logement de 50% si on arrive à s'y rattacher.
Donc premier truc, les toilettes.
Ouais, c'est quasiment le seul truc. Après, il y a l'étage, parce qu'on est soit au dernier, soit au premier. Mais la plupart sont au dernier étage sans ascenseur. Hein, c'est l'univers des chambres de bonne. Bon, moi, j'en ai monté en visitant des septièmes sans ascenseur. On s'en rappelle. En l'ayant fait une fois, on s'en rappelle. Donc, je plains les gens qui y vivent. C'est
avec
dur.
Avec le paquet d'eau.
Les paquets d'eau. Sept étages sans ascenseur, c'est dur et c'est pourtant typique de ce marché. Donc, si
ça maintient en forme, de notre côté.
Ça maintient en forme, mais essayons de viser des micro-logements avec des vrais WC à des étages bas. On pense que ça n'existe pas et pourtant, ça existe. C'est un peu plus cher, évidemment. Mais c'est là où on fait les meilleures affaires et on a les meilleurs locataires.
Bon, bah écoutez, on va suivre tout ça et puis vous viendrez nous en reparler.
Avec plaisir.
Thierry Vignal, donc, qui croit au micro-logement parisien, aux petites surfaces parisiennes. Voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine. On se retrouve mercredi prochain. Merci de votre fidélité.
Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.